Bonjour, une saison entière de début octobre à fin juin que chaque semaine nous vous avons parlé de vin. Nous avons goûté des vins pour vous en faire partager les saveurs. Une saison, 38 émissions en tout, en comptant les reportages et les hors-séries, au cours desquelles nous avons échangé avec des vignerons, des œnologues, des journalistes, tous passionnés par ce sujet infini, bien plus évidemment qu'un breuvage, un pan entier de notre culture. Bien modestement, nous avons tenté d'endosser ce rôle de passeur pour transmettre à ceux qui écoutent la passion et l'engagement de ceux à qui nous parlions et de ceux dont nous parlions ou que nous recevions à ce micro. Un passeur, nous avons la chance d'en recevoir un et pas des moins talentueux pour ce dernier épisode. Ce 35e épisode se nomme Antoine Gerbel, sec, moelleux et pétillant. Bienvenue dans la Terre à Boire. Bonjour Antoine Gerbel.
Bonjour.
Alors, d'abord, pardonnez-moi pour ce titre. Hein, je ne vous connais pas assez pour dire si vous êtes à la fois sec, moelleux et pétillant. Vous allez comprendre.
C'est drôle.
C'est le programme vin de ce soir. Permettez-moi d'abord, merci d'être là.
Merci à vous de m'avoir invité.
Notre invitation. C'est un honneur et un plaisir. Permettez-moi de vous présenter les autres personnes autour de la table. Patrice Defay, d'abord, notre œnophile passionné et documenté.
Bonsoir.
Responsable chiffres et documentation.
Exactement, le maître Capello de l'émission.
C'est ça, qui nous prépare ces dossiers si complets sur chacune des régions qu'on a visitées. Et je vous présente également Philippe Viette, notre étudiant, futur vigneron en Beaujolais, qui est au plein milieu de sa reconversion.
Bonsoir.
Et qui descend du train de Beaune.
Tout frais.
Voilà.
Tout frais livré de Beaune.
De Beaune par un train qui circule, ce qui se fait de plus en plus rare de nos jours.
Ouais, mais qui a le mérite de circuler.
Au programme des vins de Loire, donc des blancs de Loire même, puisque nous avions déjà fait un cycle sur les rouges. On s'est dit, Antoine, que la Loire, c'est tellement grand qu'on était obligé de la scinder en plusieurs morceaux. Et on termine l'année donc avec des blancs. On a parlé déjà de Muscadet, on a parlé de Sauvignon. On a déjà fait un épisode sur le Chenin avec deux expressions de Chenin sec. Et puis on va finir avec vous avec trois expressions de Chenin. Commence avec un sec. Tiens, on va commencer par une question toute simple. Hein. On commence avec un sec qui sera un chenin de Vincent Carême. On aura également à déguster un moelleux de Philippe Huette et également un pétillant de Montlouis-sur-Loire. J'ai pas le nom du vigneron en tête. Dans quel ordre on doit les boire ?
Ah, bah, il faudrait savoir si le pétillant a des sucres résiduels, si c'est un pétillant naturel ou si c'est une méthode, dites méthode.
C'est un pétnat.
Un pétnat. Moi, je commencerai par le pétnat parce qu'on ne connaît pas le niveau de sucre. Donc et si on a deux secs après qui s'enchaînent. Ah, bah non, on a un liquoreux.
On a un liquoreux.
On a un sec et un moelleux.
C'est un moelleux. Moi, je ferai pétillant, le sec et puis le moelleux. Voilà.
D'accord.
L'ordre classique.
Le pétillant va arriver pendant qu'on va discuter un petit peu. Justement, après avoir parlé du monde de l'édition avec Benoît Autier, qui était notre invité lors de l'épisode précédent, libraire au Batignolles, on s'est dit qu'on pourrait parler avec vous de la presse, du vin, puisque vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste à France Inter, vous l'avez été à l'Observateur.
Je suis toujours à l'Obs.
Oui. Toujours à l'Observateur.
À la RVF.
À la RVF, évidemment.
Ça, je n'y suis plus, mais
depuis 2016, ouais.
J'étais 12 ans à la RVF. Oui.
La grande revue du vin de France. Depuis août dernier ou juillet 2017, vous avez lancé Tellement Soif,
oui.
Une web TV consacrée au vin, la première à ma connaissance. En France du moins, oui. Oui, c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, on trouve déjà ce genre de choses. On va en parler. Auparavant, j'ai des petites comme ça, des choses que j'aimerais partager avec vous. Nous, on a lancé ce podcast en octobre avec la conviction que le regard sur le vin dans notre société, il a évolué. La dimension culturelle est plus présente. L'œnophilie se nourrit de nombreuses sources, se fait de plus en plus savante. Les amateurs de vin savent plein de choses. L'œnotourisme aussi est en pleine expansion. Les reconversions dans la vigne, on en a un exemple parmi nous avec Philippe. Et il est quand même fréquent qu'on parle de vignerons. Et vous-même, dans vos chroniques sur Inter que j'écoute, il arrive que vous présentiez des vignerons en disant « ça, c'est quelqu'un qui avait un boulot avant et puis à 40 ans, il s'est mis à être vigneron ». C'est un schéma qu'on connaît. Est-ce que vous partagez ce constat que le vin, le statut du vin culturel a évolué ces dernières années?
Alors oui, bien évidemment, il a complètement évolué. Maintenant, je ne suis pas forcément enthousiaste.
Ah. C'est-à-dire qu'il a évolué, mais c'est un peu comme la société hyper spécialisée. C'est-à-dire que la génération, là, je ne parle pas de ma génération, mais celle d'avant, on buvait du vin sans se poser de questions.
On a intellectualisé le vin un petit peu.
On l'a énormément intellectualisé. On a, et surtout, je pense qu'on a aujourd'hui, on pense tellement vin, on réfléchit tellement vin, on se cultive tellement vin qu'on ostracise un peu. Il y a plein de gens qui, des fois, passent devant la vitrine et se disent « c'est pas pour moi ». J'y connais rien, je connais pas les cépages, je connais pas comme les mots pour parler du vin. Et c'est un paradoxe, parce que c'est justement cette angoisse qui fait que une nouvelle génération se dit on va prendre le sujet, on va l'étudier. Mais d'un autre côté, en l'étudiant, en le mettant comme ça en valeur, alors à travers les médias, mais aussi une population de cavistes, une population de vignerons aussi, qui parle de manière très différente du vin que moi j'ai connu il y a... commençait à être dans les caves il y a 30 ans, ils n'avaient pas du tout le même discours. Et c'est ça qui me gêne un peu. C'est-à-dire que je suis à la fois content que ça devienne un sujet.
Il ne faudrait pas que ce soit excluant.
Mais voilà, je trouve ça un peu... Vous savez, regardez le spectacle vivant, ce qu'il est devenu. Regardez, avant, il y avait dans toutes les villes, il y avait des théâtres, il y avait des représentations où on jouait du Molière et tout ça. Ça n'existe plus. Maintenant, il n'y a plus que quelque chose de très intellectuel autour de tout ça. Il faut en être d'une certaine manière. Et ça me fait un peu peur. J'ai pas envie que le vin devienne ça, parce que pour moi, en tout cas, moi, quand je dis moi, je peux pas parler de ma petite personne, mais ma culture française, d'où je viens, d'où nous venons tous, c'est pas ça. Hein. Le vin, c'est
la convivialité.
C'est la convivialité, c'est quelque chose qu'on boit à table. Moi, j'insiste énormément sur ça, parce que j'aime le vin, mais j'aime surtout matcher, retrouver le vin. Je dis souvent 1 plus 1 égale 3 avec un bon plat et un bon vin. Donc c'est ça qu'on cherche en fin de compte. Enfin, en tout cas, c'est une grande partie de choses. Le vin pour lui-même, enfermé dans la dégustation, je l'ai fait. Je l'ai fait énormément, même d'une manière presque stakhanoviste. Mmh. Il faut passer par là aussi, mais ce n'est pas du tout une finalité. Enfin, moi, en tout cas, ce n'est pas un modèle que je défends.
C'est un peu ce que nous disaient nos amis jurassiens quand on interviewait Pierrot Vernois. Pierrot Vernois, quand il parlait toujours avec beaucoup de respect de Jules Chauvet, il disait « Le vin, c'est d'abord désaltérant et c'est d'abord du plaisir. » Et après, Pierrot Vernois disait, quand il parlait des Asiatiques et des Géchéviques, c'est que le vin, c'est de la nourriture. Mmh. Donc les gens, effectivement, le vin, il y a d'abord un rapport immédiat de plaisir et de désaltération, je ne sais pas si ça se dit, mais de plaisir immédiat. Voilà. Et en tout cas, c'est le vieux sage qui nous disait ça. Quoi.
Le mot nourriture est très intéressant parce qu'effectivement, quand on se met à table, on ne juge pas. Enfin, vous ne jugez pas la cuisine de votre mère, vous ne jugez pas la cuisine. C'est bon, c'est très bon, ça délie les langues et tout le monde se met à en parler.
On n'est pas obligé de faire des longues tirades pour décrire.
Exactement. Et le
rôti.
Et le vin aujourd'hui, si on n'en parle pas, si on n'en fait pas un peu des caisses, les gens se sentent obligés de ça. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup le mouvement nature aussi, d'une certaine manière, que je défends. Pas tout, mais je défends en grande partie l'énergie qu'il y a dedans et cette volonté d'envoyer un peu balader. On va dire toute une lexicologie autour du vin, toute une histoire un peu, on va dire, qui peut être un peu caricaturée par ce sommelier qu'on voit qui arrive derrière vous, là. Vous frissonnez quand il arrive, vous prenez pour le Dracula et qui vous en impose. Et souvent, ils ont du talent, ils savent bien parler, mais ils en imposent trop. Enfin, moi, c'est pas mon rapport avec le vin.
Et puis, il y a tout le rapport à l'émotion, tout ce qui est sensoriel.
Alors, justement.
Qui est très important et qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier. Et puis peut-être aussi que certains sommeliers ou certains dégustateurs professionnels ou critiques retirent justement du vin. Alors, ce qui fait que ça devient quelque chose d'assez désincarné et peut-être un peu abscon pour le grand public.
Justement, il me semble que dans ce mouvement qu'on décrit, il y a aussi quand même ça, ou l'inverse de ça, c'est la presse, ou un grand univers qui serait la presse, on va peut-être parler de la presse plus précisément après, mais l'offre de discours sur le vin se renouvelle, il y a les blogueurs, il y a les youtubeurs qui désacralisent quand même justement ce discours, qui ne sont pas trop là en disant il y a des arômes de mûr et ou à parler des vinifs qui sont plus dans l'émotion, dans le sensoriel, qui incarne également, il me semble que cette dimension de la sensation et de l'incarnation aussi de l'humain, pas un exemple très simple. Aujourd'hui, sur les étiquettes, il y a presque systématiquement le nom du vigneron. Il me semble pas qu'il y a... il me semble que c'est un mouvement plus récent. Il y a 30-40 ans, est-ce qu'il y avait le nom des vignerons sur les étiquettes ?
Au départ, il n'y avait pas de nom de vigneron parce que c'était le nom du marchand. Hein, surtout, le marchand, il réceptionnait des, non pas des bouteilles, mais des tonneaux. Voilà. Et c'était lui qui mettait en avant. Donc, on va dire que c'est le modèle un peu anglo-saxon, mais qui a fait le vin moderne. Hein, début du siècle, fin du 19e, début 20e siècle. Après, le vigneron, il arrivait comme source d'approvisionnement. Avant l'appellation d'origine contrôlée, hein, c'est-à-dire qu'il y avait des noms de châteaux, des noms de mais c'était très ancien régime, c'était pas des personnes, c'était des incarné par le nom du château ou la propriété.
C'est
ou,
l'institution. En fait.
C'est une institution qui regroupait un lieu qui désignait un lieu où on achetait bon. Et puis le vigneron, c'est effectivement à partir de après-guerre où ça s'est vraiment développé. Et aujourd'hui, c'est encore plus fort parce qu'il se passe autre chose. C'est cette volonté d'ego très fort, mais vraiment très fort, qui est arrivée et qui est un peu déteinte du côté de la cuisine, je crois, sur ce rapport qu'on a vu dans les années 70, les chefs devenir des stars, avec Goemio et tout ça. Ben voilà, ça déteint.
Les vignerons deviennent à leur tour des
stars. Sur les vignerons, c'est devenu aussi des stars.
Là aussi, vous trouvez que c'est un peu excessif ?
Encore une fois, ça dépend sur qui ça tombe. Si ça tombe sur des épaules bien faites, une tête bien pleine, il n'y a aucun souci. Il y a un recul, on est avec son époque. Moi, je pense qu'on ne joue pas contre son époque. Par contre, si ça tombe sur des faiseurs, si ça tombe sur des gens qui sont un peu... Oui, justement, qui
plus doué dans la communication,
qu'ont un peu un creux au fond d'eux, ça peut oui, ça peut prendre des proportions que j'ai vues des fois délirantes. En plus avec les réseaux sociaux, en plus avec tout ça, ça amplifie tout ça d'une manière très forte.
Alors parlons de Tellement Soif, cette web télé que vous avez créée. Il me semble que justement vous embrassez un peu ces évolutions dans la volonté de parler du vin autrement, peut-être de l'incarner, de parler plus de sensations que dans le catalogue des arômes et des saveurs. En revanche, d'une façon extrêmement professionnelle, très structurée, professionnelle, il y a une régularité des publications, d'être pas des youtubeurs. Vous et Ophélie Neyman, hein, je crois, blogueuse de, journaliste du Figaro.
Du Monde.
Pardon, du Monde. Elle n'était pas au Figaro
Non, jamais. Voilà, jamais. Un peu, non,
c'était Miss Glouglou.
Oui,
c'est ça. C'est Le Monde. Bah, pardon, ouais, alors, monde, excusez-moi. Ouais. Et qu'elle m'excuse. Voilà. Et que c'est très structuré, mais c'est cette volonté de parler du vin autrement, quoi, tout simplement.
Oui, alors, Tellement Soif, c'est un parcours personnel et c'est une observation, effectivement, de ce que sont les médias qui parlent du vin. Personnel, moi je suis un journaliste de formation, je ne suis pas œnologue, j'ai fait aucune formation technique.
Le vin est venu tôt quand même dans votre parcours de journaliste.
Il est venu par le parcours de journaliste, c'est-à-dire que j'ai fait des études de lettres, une école de journalisme, et je m'orientais plutôt vers, j'étais plus attiré par l'artistique, la culture, d'ailleurs là où j'ai commencé à écrire, et le vin, d'ailleurs j'ai commencé à écrire sur le vin dans une rubrique culturel qui était à l'époque dans l'événement du jeudi de Jean-François Kahn, un hebdomadaire qui a disparu, mais qui était très ouvert. On parlait de tout, on parlait de slip pour homme un jour, de vin autre jour. C'était la consommation, ce qu'on appelait pas encore le lifestyle, ce qui est devenu un mot. Voilà. Et moi, ça m'amusait terriblement en tant que journaliste de passer d'un sujet à un autre. J'avais qu'une peur en fin de compte, et ça arrivait très vite, c'était de me spécialiser. Je voulais pas être spécialiste, je le suis devenu un hyper spécialiste. Mais c'est aussi parce que au moment où j'ai commencé à devenir journaliste, le vin est devenu un sujet. C'est-à-dire que le vin n'était pas du tout traité dans la presse avant. C'est que pendant les vendanges ou la veille des vendanges, on ouvrait le micro, on sortait le stylo pour écouter un sommelier, un vigneron, et puis voilà,
c'était les marronniers.
J'étais un marronnier, et puis il y avait un bon sommelier Bedonin qui faisait son petit commentaire sur les vins. Or, les foires aux vins sont arrivées. 87, la première foire aux vins Intermarché.
Ça, c'est un marqueur.
Ça, c'est un marqueur, parce que d'un seul coup, c'est devenu le business du vin a changé. Et la presse s'adapte à son époque et commence à faire un sujet. Et le sujet, c'est, faut le dire, c'est les foires au vin. C'est les foires au vin qu'aujourd'hui je combats en partie, mais qui a amené des annonceurs, de la publicité, et les journaux, du coup, ont ouvert des pages de rédactionnel pour parler du vin. Parce que c'est ça la réalité. Hein.
Si ça, c'est les années 80-90.
Oui, milieu 87, des années, ouais, fin des années 80. Et après, ça s'est complètement développé. Tout le monde y va de son spécial vin. Après, il y a eu des grands moments. Il faut rappeler qu'un hebdomadaire comme Le Point a embauché Jacques Dupont,
qui est le grand expert du Point du Vin, qui était un journaliste comme moi. Bon, il est mon aîné, mais qui était un journaliste généraliste, politique, lui. Et il est rentré en s'amusant à Goemio. Il a fait ses armes dans le vin. Et un hebdomadaire généraliste a embauché pour la première fois un journaliste à parler du vin à plein temps. Ça, c'était nouveau. Bon, ils sont plus très nombreux. Enfin, d'ailleurs, il y a lui. Après, il s'est passé d'autres choses un peu au Figaro, un peu dans d'autres choses. Mais voilà, ça, c'est une époque. En histoire, on se souviendra de ça. Et moi, j'ai fait donc de la presse généraliste, j'ai fait de la presse spécialisée, j'ai fait des guides, j'ai fait de la radio aussi à une époque avant d'en refaire aujourd'hui. Je me suis toujours dit que le vin était déjà une hyper spécialité et donc il fallait couvrir le plus largement tous les médias possibles pour parler du vin. Donc,
c'est une hyper spécialité, hyper transversale, c'est ça qui est bien.
Voilà,
mais c'est une spécialité qui touche l'agriculture, qui touche la culture, qui touche la gastronomie,
l'économie, la politique, ouais. L'histoire.
C'est
pour ça que je suis resté.
Culturel en fait.
C'est pour ça que j'ai ouvert la porte et que je suis resté. Et puis en plus, d'un point de vue de la journaliste, être curieux avant tout, c'est après. Et d'un point de vue curiosité, il y avait tellement de choses à raconter. Moi, chaque fois que je passais 10 minutes, un quart d'heure, une heure avec un vigneron, j'avais qu'une envie, c'était prendre mon clavier et de raconter ça. Parce que moi-même, j'apprenais beaucoup. Mmh. C'est pour ça que je conseille souvent, parce qu'il y a des formations maintenant qui sont en train de se sortir, journaliste et justice, journaliste et sport, journaliste et vin, ça existe. J'ai participé à une formation qui est actuellement en Champagne. Et moi, je leur dis... ne faites pas de cours d'œnologie, rencontrez des œnologues, rencontrez des vignerons, écoutez-les, matchez tout ce que vous entendez, croisez, c'est des faisceaux qui vont vous faire grandir. Et moi je sais que c'est mon parcours. Alors c'est du luxe de dire ça, parce que je parle d'une époque où la presse payait encore les journalistes pour apprendre. Aujourd'hui, non mais c'est vrai, et puis retraduire les sensations qu'ils avaient eues, les rencontres qu'ils avaient eues. Aujourd'hui on demande aux gens de produire, c'est complètement différent. Mais bon, mais pour un jeune sommelier, je dis la même chose. Ils me disent souvent quelle école. Je dis la première école, un, tu apprends anglais, puis deux, tu te balades bien avant de commencer à travailler tout seul, parce qu'une fois que tu commenceras à travailler, tu pourras plus bouger de ton restaurant ou de ta cave. Donc c'est se déplacer tout seul avec de l'énergie pour rencontrer les vignerons. Et les vignerons aiment ça. Moi c'est ça. J'ai toujours été globalement très bien reçu quand j'étais très jeune. J'ai jamais été mal reçu. Bon, des fois, il y avait quelques... Bon, ouais, il y avait deux, trois mauvais coucheurs. Souvent des stars. Mais généralement, non.
Nous, c'est l'expérience très, très, très positive qu'on a faite cette année. C'est-à-dire que nous, on mais est juste des débutants dans le vin.
C'est tellement de rencontres formidables.
Pour reprendre l'image que disait Romain, on a interviewé des gens qui sont l'équivalent des Rolling Stones si on avait fait de la musique. Je veux dire, Pierre Auvernois. C'est quelqu'un d'hyper abordable, qu'on accède immédiatement.
Antoine Arena,
Stéphane Tissot, Ganva, on aurait pu l'avoir, mais moi il était trop pris.
Je l'ai eu au téléphone, il a répondu hyper simplement.
En fait, on a la possibilité d'interviewer les Rolling Stones, juste, c'est des gens qui sont hyper abordables. Quoi.
Qui ont envie de transmettre leur savoir et de partager, tout simplement, sans grosse tête, sans rien.
Pendant qu'on se parle, on a servi un petit pétillant qui est donc un Mont-Louis-sur-Loire d'un vigneron qui s'appelle deux vignerons qui s'appellent Gabriel Leu et Régis Danseau. Voilà, domaine de Louche-Gaillard. C'est un brut. Donc on va passer doucement d'un brut à un vin sec, à un vin moelleux.
Alors on a tout à l'heure on n'est pas sur un pétillant naturel. Là on est sur une méthode traditionnelle, donc une méthode dite champenoise, ce qu'on appelait avant champenoise, une double fermentation.
Moi qui me suis trompé.
Ce qui est principal débouché. Alors Mont-Louis un petit peu moins, parce qu'il y a un tissu vigneron. Je me fais toujours des amis quand je parle de Mont-Louis et Vouvray, parce que
c'est les frères. C'est un peu les frères.
Je les oppose un petit peu. Non, puis la philosophie. Vouvray a des terroirs extraordinaires. Mont-Louis a des terroirs pas si faciles que ça. Et Vouvray est vraiment l'enfant gâté qui fait un peu n'importe quoi avec ses terroirs. Notamment, il y a une grande. Je ne connais pas le chiffre, mais le pourcentage qui part dans des effervescents. Alors, ils sont assez fiers de leurs effervescents et surtout de leur performance de leurs effervescents à l'export. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que quand vous allez aux États-Unis, vous voyez à quel prix sont vendus les Vouvray. C'est vendu moins cher que les Prosecco, même beaucoup moins cher. Donc, c'est des bulles d'entrée de gamme très,
très moyenne. En gros, c'est des gens qui pensent acheter du champagne et qui achètent du vrai. Et ça, je trouve ça triste parce que
c'est des vins qui méritent mieux que ça.
Bah, bien sûr, on est très loin de la philosophie de l'appellation, de la défense d'un cépage qu'est le chenin. Pour ça qu'il y a ils voulaient mettre du chardonnay. C'est pour ça que. Bon, voilà, je vais positiver. Il y a plein de bons vignerons aussi à Vouvray. Et surtout à Mont-Louis, ils ont pris une grosse claque avec Mont-Louis, parce que Mont-Louis, ça a été, depuis bientôt 20 ans, c'est vraiment le think tank du chenin. Il se passe
plein de choses.
Il y a plein de jeunes qui sont arrivés. Il y a des grandes figures comme François Chiden et Jackie Blot qui les ont accueillis.
Et puis qui sont sur les deux aussi, enfin, qui sont à la fois à cheval.
C'est la revanche.
C'est la revanche. Ils ont toujours été déconsidérés. Donc.
Voilà, il n'y a pas beaucoup de gars de Vouvray qui achètent des vignes à Mont-Louis. Ouais,
mais l'inverse, c'est vrai.
Et il y a des propriétaires, parce qu'il y a encore cette structure un peu propriétaire-fermier, beaucoup. Et il y a des propriétaires qui aujourd'hui se rendent compte qu'il faut mieux confier ses bonnes vignes à un bon vigneron de Mont-Louis. Mais tout ça, c'est des très beaux terroirs. Moi, je peux en parler pendant des heures.
Puis vous citiez des jeunes qui sont installés à Mont-Louis, et on avait effectivement interviewé Lise Jousset.
Bien sûr, les Jousset sont
Bertrand et Lise qui
font partie de cette génération.
Ils sont installés en 2008, je crois, si je me souviens.
Avec énormément de difficultés parce que, bon. On achète ou on a accès à des terres pas chères, ça c'est l'avantage, mais on a un climat très difficile, c'est-à-dire qu'ils ont perdu des récoltes,
avec le gel.
L'aléa climatique est très important.
Grêle, et quand vous n'avez pas un rond, vous travaillez qu'avec le banquier et que vous perdez 50% de récolte, c'est
compliqué.
C'est très, très dur. C'est pour ça qu'ils sont tous partis, cette génération-là, un peu dans du négoce pour s'en sortir. Oui. Et je sais, c'est marrant en ce moment, puisqu'il va plus loin, parce qu'il va chercher des raisins dans le sud-ouest et il vinifie
des raisins qui ne sont pas de son.
Qui sont pas lui, qui sont, mais dans sa philosophie. Donc ça marche bien d'ailleurs, je pense que les gens. Qui...
Oui, ils ont une gamme différenciée.
Les vins du domaine et les vins du négoce, même Ganva il fait ça donc.
Oui, là, il fait même beaucoup, ouais, même,
sur une échelle quand même
il l'a fait pareil aussi pour passer des caps et des accidents climatiques qui lui ont fait perdre beaucoup de raisins. Oui.
De mémoire, les Jousset, ils ont même ouvert un bar à vin, c'est ça, hein, c'est
oui, oui, ils ont ouvert l'été. On peut
se restaurer.
Ils complètent avec le no-tourisme.
Obligatoire. Ce pétillant, bon, c'est frais, c'est
sympa.
C'est léger, c'est sympa.
Oh, c'est léger, on sent du sucre quand même par rapport à un pétillant classique, on va dire.
C'est pas des vins.
Il y a une aromatique au départ un peu. C'est un peu, il y a de la réduction, on peut dire ça. C'est une réduction qui est un petit peu sauvage, moi je suis un peu fermier. Après, la bouche elle est pure, il n'y a pas de sucre résiduel, c'est sympa. La bulle est assez fine. Il y a les petits amers qu'on aime bien, que moi j'aime bien sur le chenin en tout cas. C'est cette particularité d'avoir, comme sur les grands Riesling, sur le chenin, on a une pointe d'amertume qui fait saliver. C'est pas hyper minéral, le vin termine avec une certaine rondeur, c'est jovial.
Petit côté levuré, biscuité.
Ouais.
On retrouve dans les méthodes traditionnelles, comme sur des champagnes ou sur des créments.
Moi, j'ai toujours du mal à qu'on me dit, mais est-ce que ça vaut un champagne ? Un poulet vaut pas une pièce de bœuf. Hein. Moi, je change pas. Non, mais c'est vrai. Je change pas un pétillant de chenin contre un pétillant de chardonnay sur craie. Je comprends parce que. Mais la bulle fait faire des raccourcis énormes aux gens.
C'est le reflet d'une vision du consommateur qui considère la bulle festive. Champagne.
C'est un peu compliqué pour. C'est un peu compliqué. On pourra en parler peut-être d'ailleurs cette complication.
Quand on avait fait les champagnes ici même au Wine Therapy en décembre, on avait parlé, on a fait tout un cycle champagne, on avait parlé de cette évolution dans le champagne du vin, en gros. Le champagne qui devenait de plus en plus un vin.
Champagne vineux,
champagne de vigneron. On s'éloignait du modèle, même s'il reste archi-dominant, du modèle des grandes maisons et de ce produit unique. Et on se rapprochait d'une approche vigneronne avec un poids des millésimes, avec une signature de vigneron.
Hauteur, bio.
Voilà, c'est ça.
C'est une démarche qui est assez logique pour deux raisons. La première, on va dire, elle est sincère, c'est que c'est effectivement des vignerons comme les autres qui travaillent la vigne, et plutôt d'une manière assez difficile, parce que la viticulture en Champagne, des densités très importantes, une climatologie pas facile. Et puis c'est aussi une manière de se démarquer de ce qui est techniquement reproductible dans le monde entier, qui est l'effervescence. Qui d'ailleurs on le voit en ce moment.
Pour preuve, les Prosecco.
Mais il faut voir qu'aujourd'hui, le groupe LVMH fait plus d'argent. Prenons juste la marque Moët et Chandon. La marque, sous cette bannière Moët et Chandon, fait plus d'argent sur ce qu'on appelle les effervescents, les chandons, les sparkling chandons qui sont faits
en Australie,
en Argentine, aux États-Unis.
Qu'avec le champagne Moët et Chandon.
En Chine, aujourd'hui, ça pèse plus lourd en chiffre d'affaires.
Et donc,
ils veulent garder toujours la valeur ajoutée du champagne, parce que ça reste quand même le vin effervescent le plus cher et le plus valorisé. Mais il faut vendre autre chose pour ça.
Et puis en Angleterre, donc le pays où quand même il y a une bouteille sur 10 de champagne qui est vendue en Angleterre, les ventes de Prosecco ont dépassé les ventes de champagne.
Aux États-Unis aussi. Oui.
C'est le piège de résumer un vin à sa bulle finalement. C'est que du coup, qui fait des bulles fait quelque chose qui ressemble à du champagne. Et puis donc ce mouvement vers plus de vin et plus de vinosité.
Et je pense que ça a été quelque chose de ce côté réducteur est arrivé par le fait qu'on a enlevé les effervescents à peu près partout. C'est-à-dire que le retour des pétillants naturels, c'est-à-dire un vin pas fini mais en bouteille qui continue à fermenter. Regardez en Italie, il y en a toujours eu. Ils n'ont jamais perdu ça. Les Lambrusco, il y a dans les marges partout, vous trouvez plein de, mais il y a plein d'endroits où vous trouvez le même vin dans sa version un peu pétillante. Mmh. Ce qu'on avait nous, mais nous on a autre chose. On a l'œnologie moderne qui est passée par là. Enlevez-moi ces bulles, enlevez-moi ces sucres résiduels, enlevez-moi. Et on a fait des partout. On a produit des vins droits, carrés, nets. Alors que dans la Loire notamment, mais il y avait de la petite bulle, la fine bulle comme on disait, il y en avait énormément.
Ouais, il y a des très beaux pétillants naturels là. Je pense à la Grange Tiefen là, Coralie et Damien Delechenot.
Ce sont des orfèvres.
Voilà, donc sur le nouveau né.
Comme ce sont des très, musiciens, très bon. On va dire que c'est des ténors.
Ils aiment la musique, effectivement. Leurs cuvées sont.
Parce que c'est dur de bien réussir régulièrement, c'est la régularité. Du pétillant naturel sans bidouiller du tout. Et c'est pour ça que je suis admiratif. Et puis ça se boit pas pareil. Moi, c'est marrant, une espèce de buvabilité dans le pétillant naturel. Moi, je prends pas. Je suis pas du genre à 5h de l'après-midi à boire. Non, mais il y en a des gens qui à 5h, c'est l'heure. Le pétillant naturel, oui, je peux prendre un verre parce que je sais que c'est digeste. C'est digeste. On est généralement à 10, 10, 5.
C'est moins titré qu'un rouge ou un blanc.
Moi, je le digère assez bien. Et je trouve que c'est d'autres instants aussi de consommation. Par contre, à table, j'adore le champagne. Je suis un fou de champagne. Je bois beaucoup de champagne, souvent sur des entrées. Je ne mets pas de pétillant sur les entrées.
Un autre vin, c'est celui que tu nous as apporté, Philippe. On va passer d'un monde de bulles à un vin plus sec.
Un monde sec.
C'est le vin de...
C'est Vincent Carême. Donc c'est millésime 2014 et c'est une cuvée... C'est du Vouvray. Donc on est en face de Mont-Louis.
Ouais, c'est ça, les concurrents.
Vincent Carême, c'est la jeune génération.
Il est plus si jeune que ça.
Il est plus si jeune, mais disons qu'il
nous,
a parti.
Nous
il
non
a parti,
plus. Oui, c'est ça. C'est sans se dire que
tout
nous.
Tout est relatif. Ça dépend de quel crit. Seront pas.
Et il a participé aussi un peu à ce renouveau là dans le sillage des Blots, des Chiden.
C'est la génération un peu après. C'est la même génération que on parlait de. De Delechenot, ils sont copains et ils ont tous les deux partagent quelque chose de très important pour la région. Ils sont professeurs au lycée viticole d'Amboise et Vincent a formé toute une jeune génération, exactement comme toi en ce moment à Beaune, tu vois. Il a sensibilisé les jeunes à faire un peu autrement que tout ce qu'on racontait dans les formations jusqu'à présent.
Ouais,
il était sensibilisé au bio. Et c'était assez rare dans les lycées viticoles il y a une quinzaine d'années. Et il y a plein de jeunes qui se sont installés depuis, qui ont été formés un peu par
Vincent Carême.
Et ça, c'est super parce que il faut passer aussi par. Il faut se former, donc il faut rencontrer des formateurs.
Et puis les bonnes personnes. Et puis c'est vrai que aujourd'hui dans les lycées viticoles, on est quand même de plus en plus sensibilisé à des méthodes culturales respectueuses en viticulture, parce que les sols, ça s'épuise. Et,
c'est le cas pour toi en ce moment ? Quand tu es à Beaune et quand tu fais ta formation, t'as...
Actuellement, on est en contact avec des professeurs de viti qui nous expliquent qu'il faut respecter les sols, ne pas les bombarder et puis être sensé quand on fait des traitements.
Il y en a qui militent vraiment pour le bio ? Pas vraiment encore, ils sont dans le raisonné.
Pas vraiment, ils sont dans le raisonné, donc... on ne va pas dire qu'on a des fervents défenseurs du bio ou de la biodynamie, mais en revanche, on a des gens qui nous poussent à réfléchir sur la façon dont on traite et puis ce qu'on met dans nos futurs traitements. C'est une évidence. Et puis surtout, on a aussi des cours pratiques sur la taille qui nous invitent à pratiquer des tailles non mutilantes, qui ont été pendant des années, les tailles mutilantes ont été des sources de nécrose. Il y a les SCA aujourd'hui, qui ont détruit une partie du vignoble. Je pense notamment au manuel de taille qu'on nous a conseillé fortement au lycée viticole, c'est le manuel de François Dalle. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, comme disait Lilian Bérillon, il y a très peu de temps.
C'est qui Lilian Bérillon ?
Donc Lilian Bérillon est
c'est pour nos auditeurs,
un pépiniériste très très connu en France. Et qui, donc le pépiniériste.
C'est le Mick Jagger de la pépinière.
Ah bah lui, pour le coup, oui, c'est le Mick Jagger de la pépinière. Donc c'est le pépiniériste est très important parce que c'est lui qui aide le vigneron à replanter ses vignes, à rebrocher ses plants, ses cèpes. Et qui le fait avec des méthodes en ce qu'on appelle les sélections massales. Donc, c'est-à-dire beaucoup de vignes ont été replantées en sélection clonale, donc c'est-à-dire vous prenez un être vivant et puis vous le clonez à l'infini. Et puis quand il y en a un qui tombe malade, ils tombent tous malades.
Ah, c'est ça, ça les rend très sensibles à l'ESCA.
La sélection massale permet de maintenir la diversité et puis donc d'aider la vigne à être résistante aux maladies puis aux attaques de plein de nuisibles. Donc Lilian Bérillon est un peu cet apôtre, et Lilian Bérillon pointait du doigt le fait que pendant des années on a taillé la vigne de façon très très mutilante avec des plaies de taille très près donc justement des flux de sève, et que ces tailles mutilantes ont participé à la nécrose et à la destruction du vignoble, et notamment en Bourgogne, où vous avez une bonne partie du vignoble qui est quand même en pas très bon état. Voilà.
Il est magnifique ce chenin-là. C'est encore une autre expression par rapport au... L'épisode précédent, on était déjà sur deux secs différents.
Je le trouve très... j'utilise au nez, j'utilise toujours ce terme automnal. J'ai l'impression de marcher dans un sous-bois avec des
feuilles par terre.
Des feuilles par terre. C'est une des raisons pour laquelle j'adore le chenin.
Il y a beaucoup d'énergie dans ce vin. Hein. C'est ça qui est intéressant, parce que ce qui nous fait saliver, moi, ce qui m'intéresse... J'ai évolué dans ma dégustation. Au début, j'ai commencé comme tout le monde à beaucoup m'intéresser aux arômes. Puis on est tellement content de mettre un nom sur un arôme. Et puis le
yes, two points.
Exercice.
J'ai coché la case.
Et aujourd'hui, ce qui m'intéresse essentiellement, c'est la bouche. C'est la bouche avec ce que font un peu ceux qui développent la dégustation géosensorielle. C'est essayer de retrouver...
Ce que provoque en soi...
Non, c'est retrouver ce côté tactile qu'on a le vin en bouche. Donc, il faut le garder en bouche, mais il ne faut pas faire... Non, il ne faut pas forcément l'aérer, il faut le mâcher. Ce que faisaient les anciens, c'est... Il y a Jacques Hérigaud, un bourguignon célèbre, professeur... qui aujourd'hui est un peu les géris de cette Bourgogne des climats, qui le définit très bien. Ce que faisaient les anciens, ils grumaient, ils mâchaient le vin. Alors, j'en prends qu'une partie, mais moi, je ressens personnellement beaucoup de choses en mâchant, en ressentant ce côté vraiment ce toucher de vin, ce qu'on appelle le toucher de vin. Et surtout, on peut, en travaillant, en connaissant bien les origines des vignes,
quand elles sont claires, c'est pas toujours très clair, et quand on travaille avec des assemblages de cépages, de terroirs, mais admettons qu'en restant en monocépage sur du parcellaire, il y a vraiment une coordination qui se fait entre la texture des sols et le ressenti en bouche. Ça, j'en suis intimement persuadé. Sachant que les bons terroirs sont quand même des terroirs plutôt avec du caillou, et donc ce côté crayeux, salivant qui arrive...
Parfois salin.
Parfois salin, oui, si la vigne fonctionne bien, et si, on l'a évoqué, il y a une vraie population...
De
vignes, hein, on n'a pas que des clones, on n'est pas sur les mêmes porte-greffes systématiques, on a vrai quelque chose qui se passe. Les grands vins, je me suis rendu compte, moi, les grands vins qui me donnaient beaucoup d'émotion, c'est quand même ça, c'est-à-dire que c'est très simple comme ça d'apparence, c'est souvent vinifié très simplement, mais sur le terroir c'est incroyable, c'est un puzzle à 10 000 pièces quoi. C'est un ciel bleu qu'il faut reconstituer, et que c'est pour ça que c'est très difficile de faire sur une génération. Certains y arrivent en Loire, hein, on parle du Chenin, on pourrait parler de Richard Leroy par exemple, qui lui en une seule génération, même pas en 25 ans, il a déjà touché du doigt quelque chose,
sublime.
Mais il s'est consacré, il a 2 hectares et quelques, donc il fait que ça, c'est un jardinier. Donc si on devient jardinier, un vigneron c'est pas un jardinier.
Les Noël de Montbonneau et le Clos des Rouillés.
Mais c'est pour ça que la transmission est importante, c'est pour ça que un fils d'eux ou une fille d'eux a quand même plus de chances d'avancer s'il y a eu la transmission vers cette définition du vin.
C'est un peu ce que nous disait Arena, hein, quand il passe son domaine à ses enfants, mais il a dit voilà, ça commence à être vraiment fantastique maintenant parce que les vignes que j'ai plantées, elles vont chercher hyper loin dans le sol. Et puis maintenant, on a ses fils qui reprennent cet héritage, qui partent d'un héritage d'un.
Ouais, et puis Antoine,
déjà à un certain niveau.
Sur Patrimonio, sa génération, la génération d'Antoine, a reconquis les coteaux qui étaient complètement à l'abandon. Et donc là aussi, ça donnait une dimension au vin qu'on n'imaginait pas.
Vous tendez une perche que j'ai envie de saisir. En un an de tellement soif, pour se concentrer sur cette dernière année, ça fait des années que vous rencontrez des vignerons, mais sur l'année qui vient de s'écouler, quelles sont j'ai envie de poser deux questions, en fait, c'est les belles rencontres et quels sont les vins que vous avez rencontrés qui vous ont procuré de belles émotions. Pendant qu'on va servir le troisième vin... parce que sinon l'émission va faire 4 heures. Hein. Le troisième vin qui est donc le moelleux de Vouvray.
Alors, je vais peut-être vous décevoir, mais j'ai pas fait énormément de rencontres ces derniers temps, tout simplement parce qu'en changeant de média et en faisant de la web TV, donc en ayant comme objectif d'aller chercher un public plus large. J'ai puisé, on va dire, dans
le carnet d'adresses, dans les gens que vous connaissiez.
J'ai la chance.
C'est déjà assez large.
Déjà assez large parce que j'ai fait des découvertes, j'ai présenté un Beaujolais, un jeune Savoie, là, Laurent Yohan, Savoie.
Yohan.
C'est pas Yohan ?
Non, c'est Laurent.
Ah, c'est Laurent.
C'est Laurent, c'est Laurent qui fait du blanc. Et qui s'est mis, qui est en conversion bio là, qui fait un blanc au nord de Saint-Amour là. Et j'ai trouvé ça très. Et le gars est très simple, il est bien dans ses pompes, pastard. Il y en a beaucoup un peu comme lui, hein. Mais bon, je voudrais dire que c'était. Mais sinon, je fais beaucoup encore aujourd'hui. Un peu comme vous, hein, vous me parlez d'Auvernois, d'Arena, tout ça. Bon, tous ces gens-là, ils sont passés pas à Papier parce qu'il faut se déplacer pour. Il faut qu'ils soient disponibles. Oui, je fais beaucoup de. On va dire, c'est un peu comme une chaîne de cinéma. Moi, je me dis, il faut faire du western, il faut faire du polar, il faut faire des choses qui accrochent un peu les gens pour après dire, tiens, vous avez jamais vu Chris Parker, hop, on va vous faire. Vous allez voir Chris Parker. Mais vous ne connaissez pas pour ça parce que c'est déjà. Ce que je reviens à ce que je disais au début, c'est le vin est une niche, hein, vraiment. C'est-à-dire que pour en parler, il y a plein de gens, il y a énormément de gens qui en boivent et il y a peu de gens qui quand même basculent dans je m'y intéresse vraiment. Je fais attention à ce que c'est vraiment qu'un cépage, que c'est qu'un terroir. Et j'essaie avec Ophélie sur tellement soif de détendre un peu tout ça, d'essayer d'aller les amener, d'aller les chercher un peu tout en étant, comme vous disiez, pro, sachant de quoi on parle, et puis faire aussi un petit peu de technique pour des fois faire passer des caps. Mais moi, c'est ça que j'ai envie. J'ai envie d'être un peu la belle voiture balai pour faire venir tous ces gens
qui sont qui eux sont en croissance incroyable. Enfin, il y a pas un bar là, voilà, on est vendredi soir, on promène dans toutes les grandes villes de Paris là, il fait beau en terrasse. Il y a plein de gens qui boivent du vin, il y a tout en plus une nouvelle génération de vignerons, toi. Mais ils s'y intéressent pas encore. Et je me demande si on peut les intéresser. Je me pose toujours la question.
Quelle est la clé d'entrée ? Moi, j'ai un sentiment comme ça diffus, parce que pour être honnête...
Après le vin, c'est quand même un point de contact extraordinaire. C'est-à-dire qu'on ne va peut-être pas au fond des choses, mais dès qu'on parle de vin, on accroche... D'abord, on accroche l'étranger quand on est français.
Ouais, parce que c'est un
on
marqueur.
On accroche l'intérêt. Là, on était en bas, ou à une thérapie, on a des Japonais qui s'y intéressent, etc.
C'était donc... des Coréens, Patrice.
Ah, Sodesne. Ok, j'ai pas entendu. Des Coréens, pardon.
Désolé. Il y en a beaucoup des étrangers, Laurent.
Mais c'est quand même un... Ça crée du lien, ouais. Déjà. Alors, peut-être pas dans la profondeur suffisante. Moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, justement, et c'est un peu les deux extrêmes, c'est-à-dire que c'est la première émission qu'on avait au départ, c'est-à-dire, voilà, il y a des gens qui parlent de leur vin comme de leurs enfants, hein, et qui sont dans le partage du savoir-faire, des émotions. Et puis, on a les gens qui sont beaucoup plus dans le secret et dans la vente d'un produit. Donc on a un enfant d'un côté, c'est le vin d'auteur, hein, c'est le vin, et puis on a le vin produit, quoi. Hein, le vin, la caricature de Bordeaux, je crois que vous avez une critique un peu marrante là quand vous allez faire dans l'émission Tellement Soif le tour de Bordeaux en disant, ben voilà, j'ai pas vu un seul vigneron, j'ai juste vu des gens du marketing. C'était un peu ça la caricature. Mais ça reste malgré tout comme un point de contact. Alors, peut-être pas dans la profondeur suffisante, mais ça crée du lien déjà. Assez spontanément.
Mais moi quand je j'ai envie que les gens s'y intéressent, c'est pas pour m'écouter ou c'est qu'ils deviennent vraiment autonomes dans leur goût. C'est ça que moi qui m'intéresse, et c'est comme et la démarche qui a beaucoup évolué sur les produits, sur les aliments. Aujourd'hui quand même on est un peu moins mené par le bout du nez, on sait un peu plus de choses sur ce que c'est qu'un bon légume, qu'une bonne viande. En ce moment il se passe énormément de choses. Sur le vin on l'a, mais je trouve pas encore assez. Et à partir du moment où on se pose toutes ces questions, mais qui fait ça, comment il le fait, où c'est fait, c'est l'autonomie absolue. Et même je prêche contre ma paroisse, parce qu'à partir du moment où vous êtes comme ça, les gens, ils deviennent comme moi quelque part, ils ont plus besoin de moi. Mais j'aime cette idée que notre autonomie, cette culture qu'on acquiert, enfin, qu'il faut acquérir pour être autonome, donne des vrais buveurs, des buveurs libres, donne des gastronomes libres. En tout cas moi c'est ce que j'essaye de faire en poussant toujours sur d'autres territoires la culture du vin.
Ce qui est magique, c'est que ça donne soif, en fait. C'est-à-dire que apprenez à lire à quelqu'un, il aura envie de lire des livres. C'est-à-dire que quand on commence à mettre le doigt dedans, moi je parle pour moi, j'aimais le vin, mais de commencer cette émission en début d'année avec des passionnés qui m'entourent, ça m'a donné le goût des choses, c'est-à-dire reconnaître un cépage, l'histoire des cépages. Il y a des grands cépages et des petits cépages. J'ignorais tout de ça. Après, une fois qu'on a mis le doigt, c'est comme d'autres passions, hein, c'est comme d'autres centres d'intérêt.
Vous êtes foutu, ça y est.
Ouais, ouais, on a envie d'en savoir plus. Donc, c'est là qu'on devient susceptible de regarder des vidéos, une interview de Pierre Auvernois sur Tellement Soif ou acheter 12 degrés 5. Parlons par exemple de cette revue. Moi, je trouve qu'elle est assez emblématique de ce mouvement qui est de rajouter de la culture, de mettre en avant la culture dans cet univers du vin, et qui est pour moi, je crois qu'on en avait parlé quand on l'avait présenté, mais un produit qui peut potentiellement intéresser des gens, même des gens qui ne boivent pas de vin. C'est comme...
Oui, parce que c'est un bel objet.
C'est un bel objet, il y a des photos, et puis il y a des histoires humaines. Des histoires humaines.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est ça aussi ce qui ça participe aussi à ces cultures quand même. Mais ça vient quand même de la culture de la
gastronomie.
De la gastronomie, ouais. Hein, ça, ces photos, ce rapport au papier glacé, ça, le monde du vin
c'est nouveau dans le monde du vin.
C'est relativement nouveau. Il y a toujours des belles revues chez les Anglo-Saxons. Je ne sais pas si vous connaissez une revue qui s'appelle Noble Rot. Pourriture noble en anglais. Je vous conseille absolument de découvrir ça. C'est un trimestriel, je crois.
Américain, anglais.
Non, c'est anglais. Et c'est le nom d'un bar à vin à Londres. Et les propriétaires en ont fait. C'était un lieu qui est devenu assez, un peu mythique. Et c'est, pour moi, c'est la revue que je rêve de rencontrer en France. C'est à la fois punk, design, drôle. Et les sujets de fond sont extraordinaires.
Vous disiez justement que Tellement Soif était unique en France, mais ce modèle-là de chaîne payante web sur le vin existe aux États-Unis, existe au Canada, en Angleterre.
On m'en a parlé surtout en Australie. Il y a une chaîne qui marche bien, qui est australienne. Après, les web TV payantes sont assez récentes. Hein. Aux États-Unis, il y en a de plus en plus. Ça se développe surtout dans des champs de milieu qui ne sont pas explorés par le broadcast classique. Tout ce qui est donc c'est politique, ça peut être effectivement autour d'un produit comme le vin, ça peut être agronomique, mais ça peut être culturel, historique. Il y a des web TV.
C'est des niches, ça va être la voile, ça va être.
Nous, on fait ça dans un groupe qui s'appelle Télé Paris et dans une branche qui s'appelle Magasin Numérique. Et donc Télé Paris, c'est un gros producteur de télévision, notamment des émissions de Thierry Ardisson, entre autres, mais de Natacha Polony, de Le Cercle, enfin, il y a beaucoup d'émissions à l'intérieur de ce groupe. Et dans le Magasin Numérique, c'est des web TV. On en a quatre, mais bon, elles sont très très différentes. C'est Michel Onfray d'un côté, Anna Chapolin, nous, une chaîne de droite assez costaud qui s'appelle.
On a étudié un peu la question.
s'appelle
on a eu un doute au début. Et en fait, on s'est aperçu que c'était niche typée.
Oui, mais c'est ça. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Qui est à l'opposé de ça. Parce que c'est ça l'idée.
Mélenchon, on va faire une télé.
Non, mais Mélenchon, on a fait une.
Oui,
Média. Mais bon, le problème du Média, c'est qu'ils n'acceptent pas d'être une niche.
Mais c'est ça, ils se veulent généralistes. Alors que là, on décrit.
Alors que nous on est vraiment. Voilà, clairement, on va pas faire. Voilà, on fera jamais un prime time sur le vin, c'est pas possible. Mais par contre, on va essayer de. En étant en vidéo, c'est ça qui est intéressant, ce qui est partout, qui nous colle à la peau avec notre smartphone et qui devient quand même une écriture. On aime ou on n'aime pas, on peut juger, on peut moraliser.
C'est
plus que l'air du temps, c'est de devenir vraiment quelque chose. Et puis on est qu'au début en plus, parce qu'on va avoir un côté tactile avec l'image qui va se développer, qui va être assez extraordinaire. Donc arriver là, c'est vraiment. On sort de l'écriture. Moi, j'étais dans l'écrit. Je suis à la radio, à France Inter, dans la parole. Mais la vidéo, pour moi, je le fais parce que je sais qu'il y a des consommateurs qui ont aujourd'hui une vingtaine d'années. C'est comme ça qu'on va les toucher. C'est comme ça qu'on va pouvoir. Alors, plutôt que ce soit pris uniquement par des gens qui vont leur vendre des trucs, qui leur faire que de la com pure avec Madame La Châtelaine au bout de l'allée, avec le drone qui survole les vignes. vous voyez ce que je veux dire?
Et j'ai l'image.
On peut faire, je pense, autre chose. Et ce que vous faites là, c'est super. Le podcast, j'y crois aussi beaucoup.
Il y a beaucoup de choses que vous dites qu'on retrouve effectivement dans cet univers podcast, avec le côté très peu de moyens. Pour faire un podcast, on a besoin de très peu de moyens, mais on retrouve les niches, on retrouve le côté militant, c'est-à-dire qu'il y a un discours qui peut passer. Il y a une chose toute bête sur le vin, c'est quand même une forme de liberté, je mets ce mot-là entre guillemets, parce que pour moi, elle est trop justement sentie comme une liberté vis-à-vis de la loi E20 et des restrictions sur la façon dont on parle des boissons alcoolisées. Moi, mon sentiment, c'est que dans le numérique, certains se croient tout permis. C'est-à-dire que dans le numérique, on aurait le droit de dire que le vin, c'est tellement bon, il faudrait en boire du matin au soir. Je suis contre cette idée-là. Mais le fait est qu'il y a une certaine liberté les grands médias, les grands broadcasts ne vont pas prendre. Il n'y a aucune émission sur le vin à France Inter. Il y a une chronique vin dans une émission gastronomique.
Il y a une chronique vin. Une émission sur le vin à France Inter, je vous assure que si ça marchait, parce que c'est un service public. Mais aujourd'hui, tout le monde regarde les audiences. Et j'en suis content. C'est que l'émission menée par François-Régis Gaudry fait un très, très bon score.
Excellente émission.
Une info. On est le numéro 2 en podcast cette année, derrière Le Masque et la Plume. Et c'est un bel exploit. Ça dépasse.
Nous, on est numéro. Non, ok.
On est millième après Le Masque et la Plume.
On a été le premier podcast. indépendant sur le vin. Voilà.
Nous, on est, on est masqués, nous. C'est pas...
Non, mais on en est fiers.
Ça veut dire que voilà, il y a un public. Ça veut dire qu'il y a un public. Et puis, ça veut dire aussi que par rapport pour la question sur la loi E20, effectivement, Internet est arrivé après la loi E20. Donc, elle n'existe pas, même si elle était amendée et tout. Ben non, il ne faut pas faire n'importe quoi, effectivement. Mmh. Nous, on s'amuse sur la Web TV. Là, on est, c'est du pay-per-view. Donc, je dis souvent, c'est comme du X.
J'ai payé,
on peut démontrer n'importe quoi.
C'est du wine porn.
Voilà, c'est exactement ça, en rigolant. Non, mais mais on n'en abuse pas. On ne dit pas n'importe quoi. Mais par contre, c'est vrai que quand on a envie de s'enflammer, s'enthousiasmer en disant oh, « j'ai envie de descendre la bouteille, c'est tellement bon », je ne le dis pas sur...
Il n'y a personne qui va venir.
Je ne le dis pas sur France Inter. En tout cas, j'évite de le dire parce que ça pourrait être très mal interprété et qu'on n'a pas besoin. On peut aussi parler de son enthousiasme sans le faire dans l'excès.
Et puis après, ça pourrait mettre en colère Agnès Buzyn.
Enthousiasme. Allez, le troisième vin, messieurs, c'est un vin moelleux. Alors, on a très très peu fait. Je crois qu'on en a fait aucun de vin moelleux.
On n'a pas fait de vin moelleux
de la saison.
Sur la saison.
On en parlera un tout petit peu après si on peut.
Voilà.
Qu'est-ce que vous en dites?
Déjà, c'est un grand domaine Huette.
Ouais, c'est Philippe Huette.
Petit coucou à Daniel Géraud.
Daniel Géraud aussi. Ouais.
Qui commercialise
ses vins.
Les vins de Philippe Huette.
On est toujours en vous.
Qui aurait dû
Philippe,
être
Philippe,
là
hein, c'est ça.
Non, c'est le domaine Huette. Et le père, c'était Gaston, qui était maire de Vouvray pendant très longtemps et qui nous a quittés il y a quelques années. Et c'était son gendre qui s'est occupé du vignoble longtemps. Et maintenant, ce sont des Chinois. Qu'on rachetait.
Je ne savais pas, je pensais que c'était Philippe.
Depuis maintenant, au moins, je dirais 6-7 ans. Qui était quelqu'un qui est. C'est pas un Chinois directement, je ne veux pas dire de bêtises, c'est un Américain de deuxième génération et qui lui avait permis d'acheter des vignes. En Europe de l'Est.
Mais en Hongrie, c'est l'histoire que nous a raconté Daniel dans l'émission sur la Hongrie.
Ils étaient partenaires.
C'est ceux qui ont créé la Royal Tokay en Hongrie qui ont plus tard, et elle nous l'a dit d'ailleurs, racheté le domaine Huette.
C'est Noël Pinguet voilà, qui a fait tous les vins jusqu'à très peu. Et Noël est parti, il a pris sa retraite. Il n'a pas oublié d'emmener des très belles bouteilles dans sa cave. C'est parce que les vieux millésimes de Huette, c'est extraordinaire. Mais c'est un domaine intéressant parce que s'il est en biodynamie, c'est un des tout premiers après bien évidemment la coulée de ses rangs. Et c'est un vrai scientifique, Noël. C'est quelqu'un qui a fait ça de manière très très sérieuse. Et j'ai toujours été étonné que bon alors la cave c'est comme la carte postale, c'est une cave troglodytique, toute sombre dans la craie. Mais tous les tonneaux, des vieux tonneaux, pas tout neufs, sont équipés de froid. C'est-à-dire que vous avez des cannes qui descendent dans les fûts et c'est rare ça.
Qui viennent réfrigérer ?
Qui viennent réfrigérer. Donc il y a un apport de technologie aussi parce que c'est le style des vins qu'il aimait. C'était aller chercher par le froid un certain niveau aromatique. Mais moi j'aime bien ces histoires-là parce que.
C'est un métier de technique.
C'est un métier
d'artisan avec une part de technique très importante.
C'est pour ça que j'aime pas les gens. J'évoquais le mouvement naturiste qui a plein de choses positives, mais la chose négative, c'est de faire croire à des gamins que c'est ça. Il y a un côté de gamin. Je vais prendre du raisin, je vais le mettre dans ma.
Puis ça va être super parce que c'est la nature.
Je pense que c'est la vision un peu bisounours de l'œnologie.
C'est absurde,
parce que.
En fait.
C'est comme dire je fais du vin sans soufre et il n'y a pas de soufre dans mon vin, ce qui est trompeur pour le
consommateur. C'est pas vraiment possible en fait. Parce que lui-même
il y a quelques artistes qui arrivent, mais ils arrivent à quel niveau hein, peut-être comme Thierry Allemand que j'adore, qui est à Cornas, le grand vigneron, ou en Beaujolais, il y a quand même des gangs. Mais ce qu'ils vous oublient de dire, c'est qu'ils ont jeté à l'égout un paquet de vin. Parce que c'est intellectuel le vin sans soufre. C'est comme un peintre qui veut faire de l'illustration en abstraction.
La disparition.
Ou c'est Klein.
C'est la disparition. Cherche
le bleu absolu.
Et à travers ce bleu, on voit quelque chose. Ouais. Bah, c'est ça, mais c'est tellement difficile.
Une rigueur extrême en fait.
Ceux qui y arrivent, qui ont énormément d'expérience, qui connaissent. Tous les problèmes qu'on peut avoir à attraper des brettes à cause de. Enfin, c'est déjà une hygiène de cave incroyable. Donc, c'est l'anti-hippie. Enfin, absolument. Côté sans soufre. Après, c'est le commerce du sans soufre qui est complètement différent. Le commerce du sans soufre, il porte bien parce que il y a le côté néo-caviste, hein, ouais. Des cavistes le caviste a besoin de raconter une histoire.
Et puis on est sur une marche, sur une niche parisienne.
Ce côté rousseauiste, le citadin adore. Voilà, tout le monde est coupé aujourd'hui de la nature. Personne ne sait vraiment comment pousse une plante, comment vit un animal dans une ferme. Et voilà, on est dans un mouvement de balancier un peu excessif par rapport à ça. Et il y a un public qui a envie de l'entendre. Il y a des gens qui, bien évidemment, usent et abusent des tirades.
Et puis sur des vins comme le vin qu'on est en train de déguster sur les moelleux, oui, il faut quand même une maîtrise technique.
Les moelleux, c'est oui, parce qu'on peut tout perdre très très vite. Quand
voilà.
Même.
Et puis on est sur des vins d'équilibre. Donc c'est-à-dire que quand on produit des demi-secs, des moelleux, des liquoreux, on cherche un équilibre entre l'acidité, le sucre, l'alcool. Parce que si vous n'avez pas la bonne équation, votre vin il va être plat et puis il va pas voyager dans le temps.
C'est pas le cas de ce qu'on a là dans les verres, hein. C'est pas plat du tout.
Ah bah là c'est super.
Ce qui est intéressant dans les liquoreux de Loire, enfin ce que j'appelle les liquoreux septentrion, que ce soit de Loire ou d'Alsace ou de l'Allemagne, c'est que le sucre est un vecteur, mais il tient principalement parce qu'il y a de l'acidité derrière.
Il n'empêche pas l'acidité, ouais, c'est ça.
C'est ça, c'est-à-dire que les pH sont bas et c'est ça qui est important et qui, du coup, ça donne de l'énergie au vin. Le sucre n'est pas en soi. Ça a beaucoup changé, hein, cette philosophie, parce qu'après-guerre, le sucre, on voulait du sucre. On avait envie de sucre, on voulait un vin sucré.
C'était un conservateur aussi.
Les Coteaux du Layon, la philosophie des Coteaux du Layon à produire du sucre, c'est ce qui a amené l'appellation un peu dans le mur. Hein. C'est que voilà, on chaptalise, on s'autorise tout pour me faire un vin sucré.
Avec des gradations de sucre entre les chaumes, les quarts de chaume, etc. On allait jusqu'à
Et le goût commun a beaucoup changé. On veut moins de sucre. Ouais. On a fait ce constat avec les champenois, avec les Alsaciens.
Alors ça m'intéresse. Pourquoi aujourd'hui on veut des vins droits,
secs,
etc.
Bruts, extra bruts.
Pourquoi?
Alors, vous savez que moi, j'aime bien être contredit. Et il n'y a pas longtemps, j'ai été bien contredit par un faiseur de vin. Il le prendra pas mal. C'est un Lurton. C'est le Lurton qui a le plus grand domaine en Argentine. Non, en Argentine. Et qui fait du vin à peu près sur tous les continents. Et il m'a dit l'autre jour, vous me faites marrer, vous les journalistes, à parler de vin sec, de vin sans sucre. Le public, il n'en est absolument pas là. Moi, je fais des dégustations dans le monde entier avec du public. Eh ben, quand je mets un vin avec 10 grammes de sucre résiduel et un vin avec 0 grammes, c'est le vin avec 10 grammes que tout le monde préfère. Ouais. Alors après, une fois qu'on leur dit « Ah, celui-là, il est moins sec », les gens ils sont un peu déstabilisés, mais à l'aveugle. Et le champagne, c'est la même chose. J'ai fait très souvent. Moi, je suis un défenseur des champagnes non dosés, mais le champagne non dosé n'est pas une finalité. Il y a plein de champagnes non dosés qui ne sont pas aboutis. Le dosage permet d'aboutir, c'est la finition du champagne. Donc ça peut être 5, 6 grammes, 4 grammes, 3 grammes. Jackson, qui est une magnifique maison, il dose à 1,5 g, 2 grammes, 2 grammes. Mais il dose.
Bien sûr.
Parce qu'ils sont.
C'est le réglage fin.
Et surtout,
faut pas de dogmatisme, quoi. Faut trouver l'équilibre.
Parce que ça, c'est quand même ce lien avec un public dont il ne faut pas se couper. Il y a la théorie, cette idée qu'il faut donner une expression la plus proche nature du raisin dans son terroir, et puis la pratique, c'est qu'on doit boire du vin, avoir du plaisir à le boire. Et quand je dis il est volontairement avec.
Alors, est-ce que c'est.
On n'a pas les mêmes palais, on n'a pas les mêmes histoires.
Absolument.
Donc il faut qu'il y ait un dominateur.
Il y a malgré tout, alors est-ce que c'est juste nous qui sommes amateurs et peut-être parisiens et très urbains, il y a quand même une débarqueurisation, non?
Oui.
Quand même, il y a quand même une tendance à revenir à du nature.
Oui, mais je fais pas de l'anti-sucre parce qu'à partir du moment où il est nature, le sucre. Le problème du sucre, c'est quand le sucre est ajouté. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème, c'est qu'il faudrait refondre des fois, reprendre l'intégralité des cahiers des charges des appellations d'origine contrôlée et retirer l'autorisation de chaptalisation. Ça, pour moi, c'est. Et dans les liquoreux, il y a des appellations qui ont le droit de chaptaliser.
Vous n'allez pas vous faire des amis en Bourgogne, hein.
Non, mais c'est ouais, en 2017, je sais. C'est ça commence par là, parce que après que ce soit du sucre naturel de raisin et moi je suis pour la liberté totale du vigneron. Tu aimes le sucre, tu fais du sucre. Tu n'aimes pas le sucre, t'en fais pas. Parce que les plus grands vins, je vous rappelle, c'est des vins qui ont été faits par des hommes qui les faisaient d'abord pour eux. Quelqu'un qui fait un vin pour un un marché qui
c'est
fait.
C'est les vins d'auteur, c'est ce qu'on dit.
On est plus sur de l'artisanat, là. Après, vous.
Et le grand vin, voilà, c'est ça.
Vous êtes sur de la production.
Mais le grand vigneron, il n'y a pas un grand vigneron. Il y a plein de. Entre le Suisse, entre l'Allemand, entre le Français de la Loire, Provence et tout, ils ont tous des goûts différents. Par contre. Voilà, il faut que ce soit que du raisin, ça c'est le minimum qui devrait être à la base de toutes les appellations.
Comme dit Jean-Claude Leflève dans le bouquin qui est sorti sur les pesticides, il y a des vins maquillés, des vins pas maquillés. Ouais. Donc là, on parlait de maquillage, quand on chaptalise, etc., on met un petit supplément de poudre, etc.
Et que le sucre résiduel, c'est pas forcément du maquillage.
Tant qu'il est naturel. Ouais.
Je pense que c'était très intéressant là, justement, là, qu'on parle justement de Richard Leroy, parce que justement Richard Leroy, il est à Rabelais-sur-Layon. Donc il est dans un, il est sur un terroir où on fait justement des moelleux ou des vins sucrés.
C'est des
sucrés.
Terres de moelleux. Alors,
et c'est des terres de moelleux. Et lui, il a pris le contre-pied, il fait des secs. Et c'est ça qui est très intéressant. Donc c'est que voilà, vous avez quelqu'un qui arrive.
C'est comme de décider de faire du tartare à côté d'un four à 180 degrés. Voilà. c'est un peu son problème. Mais alors que là, le Vouvray qu'on goûte, ça c'est vraiment des territoires. Beaucoup plus facile parce qu'il y a du calcaire.
Il y a du calcaire et donc il y a une acidité qui contrebalance.
Donc une énergie. Donc non mais je citais Richard parce que voilà c'est. Mais on sur les schistes, c'est aujourd'hui on parle des liquoreux de Loire. Moi je dis simplement faites l'expérience, achetez un liquoreux de Loire sur calcaire. Il y a bien évidemment Vouvray. Il y a les coteaux, ils sont rares, mais les coteaux de Saumur sont très intéressants. Hein, cette partie, c'est liquoreux qu'on peut faire à Saumur sur les blancs, parce que c'est là, il y a des grands, grands calcaires. Et puis, après, vous basculez dans le Layon. Et on est sur le même cépage, on a le même type de vinification. Et là, on va voir l'écart qu'il peut y avoir entre un Bonzo et un Vouvray. Ouais. C'est impressionnant. C'est
Donc, on est d'accord, le Chenin est un cépage fantastique.
Oui.
Parce qu'il
est versatile.
Oui. Il est versatile, il prend multiples formes, il a, voilà, moi je l'ai
souvent appelé Harlequin. C'est ce qu'il a, c'est que il peut être un peu, pas le prendre mal, mais un peu paysan. Il peut avoir un côté un peu fermier, un peu, mais comme un peu les fromages. Si vous voulez, des fois vous avez envie d'avoir un Saint-Nectaire qui sente vraiment la paille très fortement. Puis des fois vous avez envie d'un petit peu plus de subtilité. Le Chenin, les vignerons l'ont un peu traité, voilà, d'une manière des fois un peu fermière. Et ça gomme un peu, je trouve, un autre potentiel qui est celui du terroir. C'est ce côté buvard du cépage qui va chercher dans le terroir, une autre expression. Et ça a changé. Mais il y a plein des jeunes vignerons qui en ce moment travaillent justement sur aller chercher une définition un petit peu plus du terroir plutôt que du cépage.
Merci messieurs, merci Antoine Gerbel d'avoir été notre invité, d'avoir passé ce délicieux moment et de nous avoir accompagnés pour cette dernière émission de la saison.
Voilà. Longue vie à vous. Hein.
Mais merci.
Bonne prochaine saison.
Bah écoutez, c'est exactement ce que
vous faites des recrutements, il y a Mercato là.
On a fait 38 journées en plus, hein, c'est vraiment vrai. Hein, c'est 38 émissions.
Ouais, exactement. 38 émissions. Longue vie à Tellement Soif.
Bah, merci.
D'abord. Ouais. Pour vous aussi, une deuxième saison. Pour le coup, on a toujours plaisir à vous écouter aussi dans On va déguster sur France Inter, à vous podcaster aussi. Hein. Vous ne savez peut-être pas, mais vous êtes également en podcast. Moi, je vous écoute en podcast également. À vous lire dans l'Obs. La saison prochaine, déjà, la promesse qu'on peut faire, c'est qu'on sera là. Voilà. On sera là.
Oui.
Ce sera probablement fin septembre, début octobre, peut-être un peu plus tôt. Sans doute avec quelques nouveautés, mais avec. Une même conviction, c'est celle de transmettre un petit peu de cette passion de ceux qui font du vin, avec sans doute, j'espère, d'autres chroniqueurs qui viendront nous rejoindre, en plus de ceux qui sont déjà là. Pour cette dernière émission, j'ai envie de remercier un petit peu, merci à tous ceux qui nous ont suivis, évidemment, soutenus, encouragés tout au long de cette saison, aux chroniqueurs et invités qui se sont succédés à ce micro pour nous transmettre un peu justement de cette passion pour le vin, pour la vigne, pour la terre et surtout pour le travail bien fait. Merci en particulier à Patrice Defay, à Philippe Biette ici présent, à Florence Saragoni, Diane Giraud qui aurait bien aimé être là pour cette dernière, malheureusement qui n'ont pas vu, qui n'ont pas pu, on les pardonne volontiers, on les retrouvera à la rentrée.
Laurent Delceau.
Laurent Delso, évidemment, qui nous accueille ici au Wine Therapy, mais pas seulement aujourd'hui, il nous accueille à chaque réunion, préparation.
Régulièrement.
Ah, quel plaisir, ces réunions, et c'est souvent de belles soirées à déguster toutes sortes de choses magnifiques. Parmi les chroniqueurs, Hélène Huron aussi nous a rejoint, Bertrand de la Grosse Bouffe. Merci à Grégor, bien sûr, pour sa chronique Le Champ de la Terre, et qui ce soir exceptionnellement tient la console et la technique. Merci à mon ami Pierre Poussin qui a concocté tous les visuels, celui de la Terre à boire bien sûr, mais aussi le Champ de la Terre et aussi ma Terre à penser, cette chronique philo et vin de Patrice que je vous conseille, Antoine, et que vous retrouverez également très bientôt. Je rajoute merci à l'équipe de Goom, Guillaume Jiquel, Omar et Raïs et toute la bande de podcasteurs qui nous ont accueillis dans leur magnifique studio et qui nous ont permis d'appeler au téléphone tous ces gens formidables tout au long de la saison, les blogueurs Maëlys Rey, Olivier Grosjean, Adrien le Strasbourgeois dans les vignes, quelques sommeliers aussi, Dominique Buffet, Raphaël Pierre Bianchetti, rappelez-vous, en Corse, Gaëtan Lacoste, des vignerons et des vignerons, Antoine Arena, on l'a rappelé, Pierre Auvernois, Laureline Laborde, Stéphane Tissot, Patrice Collin, Christian Binaire, Vincent Flight, quelle belle rencontre avec Vincent Flight, en Alsace, Morgane Fleury, Axel Picard, et j'en oublie évidemment, bien sûr. Merci aussi aux amis podcasteurs qui sont venus faire des petites apparitions dans la Terre à boire. Les Dentons Rad, les Pim Pam Poum, version standard, La Grosse Bouffe, Osef, Parlons Péloche, 2050. Et tous ceux que nous avons rencontrés au cours de l'année à travers notamment le collectif Podcastéo. Un petit salut particulier à nos confrères œnophiles de Tire-Bouchon, aux Libre Buveurs de Dominique Hutin et aux innombrables podcasts gastronomes qui ont fleuri cette année. La saison s'achève. Et donc nous serons là l'année prochaine avec probablement des nouveautés. Une chose est sûre, il sera toujours question de bon vin, de passion, de respect de la nature et de culture universelle. D'ici là, portez-vous bien, buvez de bon vin, passez un bel été et on se retrouve à la rentrée. Merci, au revoir messieurs. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.